l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Sylvain Waserman, le député de la majorité du Bas-Rhin, vice-président à l'Assemblée nationale à propos de l'adoption définitive du texte de protection sur les lanceurs d'alerte. Sylvain Waserman, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes auteur et rapporteur de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Quelles sont les évolutions par rapport à la directive européenne de 2019 ou encore de la loi Sapin 2 ?
Oui, alors c'est vrai que les lanceurs d'alerte, c'est un sujet de société qui s'impose. Il n'y a pas une semaine dans l'actualité où on n'a pas le cas d'une personne, d'une femme ou d'un homme qui prend le risque de s'exposer pour révéler quelque chose qu'il juge injuste ou inacceptable. Et donc cette notion de lancement d'alerte a profondément évolué et elle est devenue particulièrement pertinente en ce moment. Elle a évolué d'abord avec les réseaux sociaux et avec Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le problème de diffuser l'alerte. Tout le monde peut prendre la parole sur Internet et le diffuser. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il fallait connaître un journaliste, il fallait le convaincre, il fallait qu'il puisse convaincre sa rédaction, il fallait qu'il puisse sortir l'affaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En revanche, la question qui se pose à notre démocratie, c'est une fois que quelqu'un a lancé une alerte, comment on le protège ? Comment on le protège contre quoi ? Par exemple, les représailles dont il peut faire l'objet. S'il s'attaque à un intérêt puissant, il y a fort à parier qu'il ait une batterie d'avocats qui lui tombe dessus avec des procédures en justice. S'il révèle quelque chose dans son entreprise ou dans son administration, il y a fort à parier qu'il risque d'être viré ou d'être sanctionné. Donc la vraie question qui se pose à nos démocraties modernes, c'est comment mieux protéger les lanceurs d'alerte. Et pour répondre à votre question, excusez-moi, je suis un peu long, mais c'est vraiment important d'expliquer le parcours. J'ai commencé ici à Strasbourg par un rapport au Conseil de l'Europe sur le sujet des lanceurs d'alerte, en regardant tous les droits européens. J'en ai tiré des bonnes pratiques, des points à faire évoluer. J'ai pris ma plume en me disant, tiens, comment le droit français pourrait évoluer ? Et effectivement, il y a eu trois sources dans ce travail. La loi actuelle, qui est la loi Sapin 2, qui a été en 2016, dont un rapport parlementaire de deux de mes collègues ont montré qu'elle était très insuffisante. Je prendrai des exemples très précis. La directive européenne, qui, elle, va très en profondeur, mais sur un périmètre très, très étroit. Elle ne traite que du monde de l'entreprise ou du monde du travail. Alors que pour nous, tout citoyen peut être lanceur d'alerte. Et donc, à partir de ces sources-là, j'ai construit un texte qui est passé après par l'Assemblée nationale et le Sénat.
C'est quelque chose que vous portiez depuis longtemps, vous, alors ?
C'est ça, c'est 3 ans de travail. Moi, j'ai été convaincu, d'abord, c'était un intérêt quand j'ai proposé ce rapport au Conseil de l'Europe, ici à Strasbourg. Vous savez, le Conseil de l'Europe, ça décide de rien, mais ça s'interroge sur l'état de la démocratie, l'état du droit. Et en ce sens, ça inspire les réglementations nationales. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
Et en France, aujourd'hui, on a la meilleure protection des lanceurs d'alerte.
C'est ça. Alors, quand cette loi sera finalement adoptée, c'est-à-dire qu'elle a été finalement adoptée à l'Assemblée, elle le sera maintenant cette semaine au Sénat, on aura effectivement, et c'est la maison des lanceurs d'alerte qui le dit, c'est Transparency International, c'est pas que moi, on aura la meilleure législation en Europe pour la protection des lanceurs d'alerte.
Vous avez des points concrets, des exemples ?
Oui, il y en a beaucoup. En fait, cette loi, elle traite toutes les étapes de la vie d'un lanceur d'alerte. Je vais vous donner des exemples extrêmement concrets. Dans le droit actuel, avant la loi que j'ai écrite et que je porte, si vous aviez une alerte, par exemple, dans votre entreprise, imaginez, vous travaillez dans une usine, votre usine, elle balance du mercure dans la rivière d'à côté. Et vous tombez sur une note qui le prouve. Vous étiez obligé d'aller en interne. Pour avoir le droit d'être reconnu lanceur d'alerte, il fallait d'abord passer par le circuit interne. On voit bien que ça a ses limites.
Oui, bien sûr.
Demain, on aura des canaux externes avec des autorités indépendantes qui auront non seulement l'obligation de traiter votre alerte au fond, mais aussi dans des délais prévus. 7 jours pour acquitter de la prise en charge, 3 mois ou 6 mois si c'est des dossiers très complexes. Donc, ça, c'est une avancée extrêmement concrète. Autre exemple, les représailles qu'on peut avoir en interne, se faire virer, se faire mettre au placard, se faire mettre sur une liste noire du milieu professionnel dans lequel vous évoluez. Tout ça deviendra un délit pénal. Et pour avoir été chef d'entreprise, je sais l'importance qu'un chef d'entreprise attache au délit pénal, parce que c'est son casier judiciaire personnel. Hein. C'est pas l'amende, vague amende payée par l'entreprise dans 2 ans, comme on peut avoir au prud'homme. Hein. C'est son casier judiciaire personnel. Donc il y aura une attention particulière. Ce sera dans le même statut que le harcèlement. Vous savez que s'il y a des harcèlements dans votre entreprise, votre obligation en tant que chef d'entreprise, c'est d'y mettre fin. Donc voilà, ce sera la même risque pénal. Et troisième exemple, extrêmement concret. J'avais auditionné beaucoup de lanceurs d'alerte qui me disaient, un agriculteur qui va par exemple développer un cancer et qui est persuadé que c'est parce qu'il manipule un produit depuis 20 ans qui vient d'une grosse firme, qui va lui balancer des procès en justice, et qui me disait parfois, je suis sûr de gagner tous mes procès parce que je les gagne tous, mais je les gagne à chaque fois un peu plus endetté parce que je dois assumer mes coûts de justice. Ce qu'on fait dans cette loi, c'est une innovation qu'on a travaillé notamment avec le ministère de la Justice et avec le Conseil d'État pour que les frais, pour faire court, les frais de la défense soient à la charge de l'attaque. Et que lorsque le juge constate un gros déséquilibre entre un lanceur d'alerte qui se fait ensevelir par un intérêt puissant sous des tonnes de procédures, eh bien il impute les frais de la défense, les frais d'avocat de la défense à l'attaque. Voilà. Donc c'est des exemples extrêmement concrets. Dernier exemple que je prends, le défenseur des droits pourra en tout début, à tout moment, reconnaître le statut de lanceur d'alerte ou lanceur d'alerte, et ça change tout. Parce qu'aujourd'hui, dans le droit actuel, c'est au bout de 2 ans, 3 ans de procédure que vous avez confirmation que vous étiez bien lanceur d'alerte. Mais au bout de 3 ans, votre vie, elle a pu être broyée 10 fois avant que vous soyez officiellement reconnu comme lanceur d'alerte. Donc vous voyez, tous ces sujets font qu'on a regardé point à point, étape par étape, dans la vie d'un lanceur d'alerte, pour leur rendre leur juste place. Et puis la moindre des choses, c'est leur apporter la protection pour ces femmes et ces hommes qui ont le courage de s'exposer.
Il y a des lanceurs d'alerte emprisonnés dans le monde.
Oui, alors il y a deux sujets. Hein. Il y a la France, et là évidemment on traite de la législation française. Il y a aussi des cas évidemment très connus qui ont d'ailleurs permis de poser les bases du débat en France. Je pense notamment à Edward Snowden. Edward Snowden a participé à notre premier événement que j'avais organisé donc à Strasbourg au Conseil de l'Europe. C'était un événement qui s'appelait 48 heures chrono. On avait beaucoup de lanceurs d'alerte, de journalistes, d'associatifs qui croisaient leur regard sur comment faire évoluer le droit et quelle est la responsabilité du législateur pour faire évoluer le droit. Et je me souviendrai toujours, je le disais à la tribune de l'Assemblée d'ailleurs pour conclure mes 3 années de travail lors de ma dernière intervention, je lui avais demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, parce que vous savez qu'il est dans une situation vraiment, vraiment extrême, et il m'a dit rien, mais ce n'est pas le sujet. Vous, en tant que législateur, vous devez répondre à la question de ces femmes et de ces hommes qui demain réfléchiront si oui ou non ils vont lancer leur alerte, et c'est à eux que vous devez penser pour leur apporter la protection que notre démocratie doit pouvoir leur apporter.
Alors, il existe encore des domaines préservés comme la défense, la sécurité nationale, le secret professionnel de la médecine et le secret des avocats. Y a-t-il des exceptions dans ces cas-là ?
Alors, effectivement, ça, c'est un sujet extrêmement important. Être lanceur d'alerte, c'est cadré par le droit. Je vous donne un exemple précis. Si vous êtes assistante d'un avocat, vous êtes assistante d'une avocate plutôt, on va prendre dans l'autre sens. Vous êtes assistante d'une avocate. L'avocate a un client. Imaginez que le client dise à son avocat, bon, c'est moi le coupable, voilà la preuve. Évidemment, l'assistante de l'avocat n'a pas le droit de prendre la preuve que lui a donnée son client en disant, bah voilà, c'est une preuve d'un crime ou d'un délit, donc je suis lanceur d'alerte, je le balance. C'est pas possible, parce que évidemment, ce serait une atteinte démocratique au droit de la défense, et vous savez qu'un avocat, il est là pour protéger son client, quels que soient les éléments qu'il peut avoir sur sa culpabilité. Donc on peut pas faire n'importe quoi. En particulier, le droit de la défense est un domaine, donc le droit de la défense entre l'avocat et son client, est un domaine qui est préservé. Pareil pour le secret médical. Cela dit, la loi, et pareil pour la défense, cela dit, la loi aménage des exceptions, des dérogations. Par exemple, sur le secret médical, la santé de l'enfant et les risques que peut encourir un enfant font partie de ces exceptions. Et bien, dès lors qu'on est dans une exception cadrée par le droit, alors c'est un champ qui s'ouvre aussi aux lanceurs d'alerte.
Alors, ce texte va passer devant le Sénat, vous disiez, en deuxième lecture. Il pourrait avoir encore des évolutions à ce texte. Vous pensez que ça va évoluer avec, on va dire, avec le contexte des médias sociaux, de ce genre de choses ?
Alors, c'est vrai que le texte a beaucoup évolué entre le rapport que j'avais fait au Conseil de l'Europe, le premier texte que j'avais mis sur la table, et il a évolué dans un sens positif. Et je crois que j'ai eu énormément d'échanges, notamment avec Transparency International et la Maison des lanceurs d'alerte. Et la veille de la réunion décisive avec le Sénat, on s'est dit, mais tiens, là, on se demandait si on allait toper un accord avec le Sénat. Et en fait, on s'est dit, si on passait en deuxième lecture, c'est-à-dire en fait, sans rentrer dans trop de détails, mais soit on tope un accord avec le Sénat, soit on retourne chacun dans nos chambres respectives, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, et puis on refait d'autres lectures, et puis finalement, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Donc ça, c'est le système démocratique français. Dans ce cas-là, on s'est dit, en fait, la copie à laquelle on aboutit est exactement celle qu'on mettrait en deuxième lecture. Donc on a été, je pense, sur cette juste ligne de crête, à la fois qui permet aux associations de dire que c'est effectivement la meilleure législation en Europe, hein, y compris des associations internationales comme Transparency, qui ont évidemment une fine connaissance des différentes législations, et à la fois qui n'a pas eu d'opposition du monde de l'entreprise. C'est-à-dire que vous n'avez pas vu le MEDEF monter au créneau contre cette loi, parce qu'on a beaucoup dialogué avec tout le monde, évidemment. Et on a fait, quand je parle de cette juste ligne de crête, c'est qu'à la fois, et ayant été chef d'entreprise, j'avais un regard différent de ce qu'on pouvait caricaturer dans la position des entreprises. Je donne un exemple tout simple. Je prends l'exemple de tout à l'heure où une usine balance du mercure dans la rivière. Si vous êtes patron d'une entreprise avec 50 sites en France et qu'il y en a un qui balance du mercure dans la rivière, vous avez envie de le savoir. Vous avez envie de le savoir très vite parce que vous êtes patron de l'entreprise. Donc d'abord, vous avez votre risque. Mais en plus, vous gérez par rapport à vos actionnaires un risque réputationnel pour l'entreprise. Donc vous avez intérêt à agir directement. Et de toute façon, dans notre monde, tout se sait. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'une entreprise qui serait devant une faute comme celle-là la prend très vite en charge, avant même que le sujet arrive sur la place publique, qu'elle puisse le résoudre. De toute façon, tout arrive toujours à un moment sur la place publique. Donc la question, c'est comment, en tant que chef d'entreprise, je prends les mesures immédiatement pour résoudre ces sujets. Et ce qu'on a dit notamment avec les organisations patronales, c'est de dire, on va laisser les entreprises libres de définir la façon en interne dont elles vont gérer leurs alertes, parce que depuis cette loi-là, où on peut directement passer en externe, si leur canal interne, leur organisation interne n'est pas convaincante, pas fiable, pas performante, pas sûre pour les salariés, eh ben la sanction sera immédiate. Ils passeront directement en externe. Donc vous voyez, c'est juste la ligne de crête, c'est aussi se dire, faisons confiance dans l'organisation interne des entreprises, parce qu'elles ont intérêt à construire la meilleure solution. Sinon, la sanction sera immédiate, les lanceurs d'alerte partiront directement en externe, ce qui n'est évidemment pas le choix préféré de l'entreprise. Elle préfère avoir connaissance des faits et pouvoir les traiter directement. Si je peux rajouter un tout petit point, je suis désolé d'insister, mais c'est une loi parlementaire. Et en fait, c'est rare d'avoir des lois parlementaires. Ça veut dire que ce n'est pas un gouvernement et la haute fonction publique qui l'a écrite, c'est les parlementaires. Et pour tous ceux qui pensent que le Parlement ne sert à rien, c'est d'abord un message qui dit que non. Toutes les femmes et les hommes qui ont voté, tous les députés qui ont voté à l'unanimité en première lecture ce texte, eh ben, c'est des femmes et des hommes engagés pour notre démocratie et qui pensent que notre démocratie doit progresser et qui en ont fait la preuve avec ce texte.
Sylvain Wasserman, député de la majorité du Bas-Rhin et vice-président à l'Assemblée nationale. Merci.
Merci à vous.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.